Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Rick Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici. Toutes les semaines, inlassablement, on vous résume et on vous analyse les émissions de la WWE. On parle catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier pay-per-view de la World Wrestling Entertainment, Hell in a Cell. Et pour m'accompagner, l'inusable Papy Ronchon. Comment ça va, Papy?
Bonjour les enfants, bonjour Ringside. Mais oui, ça ronchonne fort ici.
On n'est pas content, il fait chaud. On est attaqué par
chaud,
les...
Là.
Il fait moins chaud, chez moi il fait encore bien chaud. Hein.
Ah merde.
On est attaqué par des chenilles maléfiques, les chenilles du diable urticantes.
Mais quelle horreur.
L'urticaire. On n'a pas. Dès qu'on sort sous les arbres, il faut pas aller dans la nature de mon côté du pays.
Il faut rester chez soi et écouter catch-up.
C'est ça. Donc restez bien cloîtrés chez vous, à nous écouter, puis regardez peut-être Hell in a Cell. Gros pay-per-view de la WWE, pas si gros que ça en fait, mais c'est surtout un pay-per-view historique puisque ce sera normalement, si tout va bien, si Dieu est avec nous, le dernier au Thunderdome.
Croise les doigts.
Toujours en Floride. On espère parce que là ça commence à être difficile. On vous rappelle qu'on a encore toutes nos analyses en ligne hein, pour ce qui est des reviews de SmackDown, de Monday Night Raw. Vous pouvez aller aussi écouter le comptoir du catch, l'émission des 5 ans, des interviews du côté de You Talk Too Much, avec notamment Tristan Archer, récemment. Tout ça, c'est en ligne sur la chaîne Catch Up. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, tout ça, c'est gratos. Mais revenons à nos moutons. Hell in a Cell, c'est donc... Il y a du lourd ce soir, il y aura deux matchs dans la cage de l'enfer. La défense du titre des dames de SmackDown. Bayley va tenter de prendre le titre de Bianca Belair. Et oui. Chez les hommes, ce sera notre main event. Bobby Lashley défend son titre face à Drew McIntyre. Si Drew McIntyre perd, il n'aura plus jamais le droit de défier Bobby Lashley pour le titre. Et on a aussi le titre féminin de Monday Night Raw qui est défendu. Charlotte Flair va tenter de faire tomber Rhea Ripley. On a aussi Sami Zayn contre Kevin Owens, l'ultime affrontement. Cesaro contre Seth Rollins, l'ultime affrontement également. On avait autre chose à la carte ? Je ne sais plus.
Si, y avait, tu l'as dit, Blazer contre Bliss.
Blazer contre Bliss, c'est le dernier truc que j'avais oublié. Effectivement, on est bien en enfer. Le démon est là, Alexa Bliss et ses pouvoirs magiques contre Shayna Baszler, la boss du MMA, du Mixed Martial Art, toujours accompagnée de son sommelier Reginald et de son acolyte Nia Jax, les anciennes championnes par équipe. Elles ont des comptes à régler avec Alexa Bliss. Hein, elle a été un peu envoûtée, Shayna Baszler, à Monday Night Raw. On est dans le fantastique le plus pur. C'est ce qu'il y a au programme ce soir. Il y avait un kick-off, hein, qu'évidemment nous n'avons pas regardé, où les championnes par équipe, Tamina et Natalia, c'était Natalia toute seule, accompagnée de Tamina quand même, qui affrontait Mandy Rose, qui était accompagnée d'Anna Brooke. Victoire de Natalia en 9 minutes 39.
C'est bien la peine.
Voilà. Je ne suis pas sûr que j'aille rattraper ce match. Hein. Allez, on attaque les hostilités. On est directement dans la cellule de l'enfer pour défendre le titre féminin de SmackDown. Bayley va devoir battre Bianca Belair. Donc, ça va être un match bien, bien bourrin puisque Bayley, elle s'y connaît quand même en Hell in a Cell. Elle va utiliser un peu tout l'arsenal à sa disposition pour essayer de faire tomber Bianca Belair, notamment les escaliers de fer, la grille. Elle va tenter de placer des kendo sticks à l'horizontale entre le tablier du ring et la grille. Mais c'est elle qui va se faire piéger méchamment dans un spinebuster de madame la championne. Madame Belair qui va exploser le dos de la pauvre Bayley. On va continuer à se foutre sur la gueule gaiement. On va même sortir les échelles. Bailey, elle va quand même bien attaquer la jambe de Baylor. Et elle va faire tout ce qu'elle peut. Et au final, ça va se terminer par le final, le Kiss of Death de Belair sur Bailey à travers une échelle, s'il vous plaît. Ça, elle ne s'en remettra pas, la pauvre Bailey, qui va être aussi pendant le match manipulée grâce aux cheveux de Bianca Belair, qui va attacher ses cheveux au poignet de Bailey pour la frapper dans tous les sens du terme sans qu'elle puisse s'échapper. Utilisation un peu intelligente de ses cheveux par Bailey, hein, par Belair, pardon, qui a une natte qui va jusqu'au sol, hein, je vous le rappelle. Voilà, l'histoire du match, hein, c'était que Bailey se moquait de Bianca Belair avec son rire de psychopathe. Alors, Bianca Belair, c'est elle qui va rire à un moment donné pendant le match, mais surtout elle qui va gagner après combien? 19 minutes 42 de match. Donc voilà, ce premier match dans la cage, un opener de choix. Est-ce que ça t'a plu, mon bon papy?
Ouais, j'ai plutôt bien accroché, moi, cet opener. Alors la position fait que ça pouvait pas être le méga match en cage de la soirée, enfin en tout cas je pense que c'était vendu en tout cas comme ça.
Ouais, c'est pourtant, difficile.
Pourtant elles se sont bien foutues sur la gueule, j'ai trouvé, malgré tout. Quelques spots que tu racontais plutôt impressionnants. Alors je sais pas, à un moment j'ai l'impression que McAfee s'est un peu planté et a annoncé des spots à l'avance, mais je sais pas si. Tu sais, notamment avec le double kendo stick, à un moment elle sort un kendo stick et fait ah oui, elle ressort le double kendo stick de la fois dernière et tout, puis après tu la vois qu'il la sort deux plus tard. Donc je me suis dit merde, il avait dû avoir ses notes et comme il voit pas très bien à travers la grille, il a dû s'en mêler les pinceaux un peu parce qu'il regardait lui tu voyais, il était debout derrière la cage en train de regarder à travers la grille, donc forcément ça, tu vois moins bien.
D'accord, bah voilà, ça lui apprendra à se lever pendant les matchs. Exactement. Ouais, il paraît qu'il fait ça, hein, qu'il se lève et que du coup il regarde pas l'écran. Moi j'ai écouté en français parce que il y a les commentaires français maintenant de Ajus et Nadir Mohamedi. Donc du coup j'ai regardé ça en français, c'était réglé là-dessus quand je suis arrivé. Ouais, c'est propre, hein, toujours efficace, Christophe Ajus. Mohamedi, il apprend doucement, hein, il tient sa place. Ça. C'est correct, il n'y avait pas de décalage de son comme il y en avait dans les autres pay-per-view.
D'accord, bah c'est bien, il progresse là-dessus.
Ouais, au moins ça. Et il balance pas les spots à l'avance.
Ah, ça peut gêner. Bon, après, c'est peut-être moi qui m'ai mal compris. Hein. Peut-être qu'il disait justement, vous souvenez-vous que nanana, mais bon, c'est bizarre qu'il ait sorti ça et que deux secondes après, il sorte le double kendo stick. Donc, moi, je pense qu'il avait noté le spot et qu'il s'est juste planté en l'annonçant. Mm. Alors, c'est pas méchant parce qu'en plus, on a dressé des louanges à Pat McAfee sur ces dernières semaines et il les mérite toujours. Hein. Il est toujours à fond dedans. À sortir pas mal de trucs pour donner de la vie au match et ce match-là, je trouvais qu'il y a pas mal de vie. Des spots, alors je l'ai trouvé moins bon que le Sasha Bailey d'il y a 8 mois, mais en même temps, il y avait peut-être moins de haine, moins d'intensité, puis il y a peut-être moins d'alchimie aussi parce que Bailey et Sasha, elles se connaissent vraiment par cœur de chez Parker. Et mine de rien, c'était plutôt pas mal. Bianca, comme je le pressentais, ressort ultra forte de cette opposition. Le finish est impressionnant parce qu'elle le fait, elle fait son KOD sur Bailey. En plus, elle le fait sur une échelle ouverte, où Bailey plie l'échelle en tombant dessus. Alors, elle a bien donné son corps à la science aussi, encore une fois. Et non, moi, j'ai passé un bon moment devant ce match-là. C'était un de mes bons préférés de la soirée. Je le dis tout de suite. Voilà, spoiler, c'est un de mes bons préférés de la soirée. En tout cas, ça commençait très bien avec ce match-là.
Ouais, non, c'était plutôt bien booké, plutôt bien exécuté. Il y a eu quelques gros spots dont j'ai pas parlé, hein, des superplexes du haut de la troisième corde, des grosses démonstrations de force de Bianca Belair, et puis effectivement Bailey, elle a donné de sa personne pour mettre en valeur Belair. Elle marche sur l'eau un petit peu, moi Bailey, je trouve, en ce moment elle est vraiment en parfaite. Il y a tout qui fonctionne dans ce qu'elle fait. Le seul truc que je pense qui plombe peut-être le match, qui en fait pas un énorme match quand on avait eu entre Sasha et Bailey la dernière fois, c'est peut-être simplement que Bianca Belair elle est encore trop green pour un Hell in a Cell. Les Hell in a Cell, c'est quand même ça se réserve un peu pour les tauliers, enfin je trouve. C'est un peu comme quand on a eu Braun Strowman dans le Hell in a Cell la dernière fois, ça n'avait pas ça matche peut-être pas. Ils ont pas la psychologie encore nécessaire pour rendre vraiment c'est intéressant. Alors elle a bien enchaîné les spots, il n'y a pas eu de fausses notes, hein, mais il manque le petit truc de psychologie qui fait qu'on rentre dedans à fond dans un Hell in a Cell comme la dernière fois entre Bailey et Sacha, quoi. Mais
après, c'est le problème avec la multiplication des Hell in a Cell, là, c'est notre.
Ouais, c'est ça.
C'est notre sixième, enfin, ça, celui-là en l'occurrence, c'est le cinquième Hell in a Cell depuis moins d'un an, quoi. Entre celui qui a eu la veille à SmackDown, enfin, 2 jours avant SmackDown, et les trois, on en avait eu trois quand même à celui d'octobre. Ça commence à enchaîner, quoi.
Ouais, c'est ça.
Obligé de mettre un peu des gens différents, quoi.
Ben, c'est ça, ouais. Il faut varier. Mais bon, voilà, ils ont usé et reusé de cette stipulation de Hell in a Cell, donc. Effectivement, ça se ressent sur ce match, mais franchement, elles n'ont pas démérité l'une comme l'autre. Effectivement, ça démarrait plutôt bien le show. Mais bon, c'est bien Baylor qui conserve le titre. Bon, on a des segments backstage avec le panel, je crois, du kick-off. Bon, il n'y a rien de vraiment intéressant. Alexa Bliss qui vient parler aussi. Bobby Lashley, on le voit dans les coulisses aussi. On se serait cru à Monday Night Raw, c'était pas...
Il y avait pas mal de promos backstage et de
Rien de spécial, hein, rien à noter.
Non, rien de vraiment marquant, et c'était marrant parce qu'en fait il est lancé avec les gars des commentaires qui disaient nanana, puis hop il balançait un petit truc backstage, tu revenais soit sur eux soit sur un autre groupe de commentateurs. Donc, je pense que c'était pour évacuer les cages, évacuer les commentaires, etc. En tout cas, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de transitions comme ça où tu te demandais un peu s'il allait se passer quelque chose, c'était juste pour combler les trous. En l'occurrence, c'était juste pour combler les trous.
Ouais, voilà, combler le temps d'antenne, exactement. Bon, le match suivant, c'est Seth Rollins qui affronte Cesaro. Ça fait des semaines qu'ils sont en train de se chamailler les deux là. On se souvient que Cesaro, si je dis pas de bêtises, à WrestleMania a battu Seth Rollins. Et Seth Rollins n'a jamais avalé. Il est venu embêter Cesaro pendant son match contre Roman Reigns. Et maintenant. On règle ses comptes depuis quelques semaines. À chaque fois, c'est Cesaro qui humilie un petit peu Seth Rollins. Il a notamment baissé le froc. Hein. Il était en slip là, au dernier SmackDown.
C'est pas sympa.
C'est pas sympa, ça. On met pas les gens en slip à la télé. Pas sympa, Cesaro. Mais bon, ce soir, on règle les comptes. Donc, 16 minutes 13 de match. Il y a quand même Cesaro qui donne un peu son meilleur avec des grosses prises, grosses démonstrations de force. Seth Rollins, tout son savoir-faire à coup de Falcon Arrow, de coup de coude dans la nuque, de retournée acrobatique et d'espèce de retournée spéciale là, où il met des coups de pied quand il est à moitié à genoux. C'est assez impressionnant. Mais finalement. Le match se termine au bout de 16 minutes 13 sur un roll-up de Rollins sur Cesaro. C'est anticlimatique au possible. Je sais pas si toi tu as été particulièrement déçu par ce finish, mais c'est difficile de faire autrement, j'ai l'impression.
Yes, est-ce qu'ils se sont pas coincés avec cette rivalité en fait?
Ouais.
Ça a duré pas
trop longtemps. Est-ce que,
voilà, qu'est-ce ça, que... ouais. Et puis en même temps, ils peuvent pas du coup faire perdre Cesaro clean parce que mine de rien, c'est lui qui a le push depuis quelques temps. Enfin, j'ai l'impression que c'est en... enfin, je sais pas. Parce que du coup, ça sous-entend qu'ils vont devoir continuer avec Cesaro Rollins parce qu'ils peuvent pas finir ça là-dessus la rivalité, quoi.
Ouais, je pense pas. Alors, est-ce qu'ils nous réservent un ultime Rollins-Cesaro pour SummerSlam avec grosse démonstration, hein, parce qu'on sait que les deux, ils peuvent sortir un match 6 étoiles. Là, c'était aussi très propre hein, tout le long du match. Il y a eu des moves sacrément impressionnants, sacrément original. Mais terminer sur un roll-up, c'est chaud quand même.
Ouais, mais franchement, c'est chaud. Je suis d'accord avec toi. C'est surtout qu'en plus, c'est la troisième opposition, grosse opposition entre eux, parce qu'ils avaient une opposition à. C'était dans un SmackDown qu'ils avaient une opposition.
C'est possible, ouais.
Ou Cesaro avait battu Rollins, je crois, soit pour obtenir un match contre Reigns, je crois, un truc comme ça. Mm. C'est leur troisième gros match, et puis là, tu te termines sur un roll-up, tu te dis c'est pas fini. Tu partages parce qu'effectivement le match est bon, mais du coup tu te dis c'est qu'un match parmi d'autres quoi. Donc ça finalement, le finish enlève du prestige au match. Le finish dit limite, ça compte pas ce match-là.
Ouais.
Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises avec ce match-là. Il est pas mauvais, hein, ça c'est clair, il est pas mauvais, mais.
Ouais, il est pas mauvais, mais ça le reclasse directement dans la low card, quoi, parce qu'on dit finalement c'est un match pour du beurre. Et puis Cesaro qui perd, ben forcément. Ça aide pas à finaliser son push qu'on attendait depuis des années. Et qui s'est déjà semi-terminé par une défaite contre Roman Reigns. Là, si en plus il perd contre le gars contre qui il a placé sa grosse victoire qui l'a permis de se lancer, c'est quand même faire trois pas en arrière après avoir fait deux pas en avant, quoi, quelque part.
Après, moi, ce que je disais dans. On en parlait avec qui ? C'était avec Tonton, je crois qu'on en parlait dans le SmackDown d'avant pay-per-view. Finalement, vu l'absence de public, je pense que c'est peut-être pas plus mal que le push de. Enfin, le. Qui n'est pas un push maintenant pour Cesaro, parce que je pense que ça ne marcherait pas parce qu'il ne tient pas la baraque tout seul. Hein. Par contre, avec du public en feu, si jamais ils ont décalé son push à 2-3 mois, bah pourquoi pas. Je me dis, avec un public qui prendrait feu et fait tes causes pour lui, bah ça ne l'obligerait pas à parler. Enfin voilà, il n'y aura pas besoin de tenir la rivalité à lui tout seul. Quoi. Il y aura le public pour faire qu'il ferait office d'eux.
Ouais, mais... Ça va jouer, à mon avis, à SummerSlam quand il va rentrer dans l'arène. Je pense quand même qu'ils vont nous faire un match pour SummerSlam. Et que les deux vont mettre le paquet. Du moins, si Cesaro veut continuer à être sur la top list, il va falloir qu'il fasse un gros match. Parce que, à WrestleMania, ils ont fait un gros match déjà, mais il y avait tellement de bons matchs à WrestleMania sur les deux nuits. Ils n'ont pas forcément volé le show. Je dirais que dans l'absolu, même au niveau des puristes, c'est peut-être le Riddle Sheamus qui a peut-être le statut de show stealer pour le week-end. Donc voilà, clairement, l'essai n'est pas transformé du côté de Cesaro. Donc il y a encore un gros coup à faire à SummerSlam s'ils sont sur la liste, s'ils sont sur la carte. Mais bon, ils ont là, c'est vraiment dans un pay-per-view terminé sur un petit paquet. Et c'est déroutant, surtout qu'on va voir que c'est pas forcément le
seul finish pourri.
Pourri de la soirée, ouais. Finish pourri, match pourri, on est aussi gâté puisqu'après on a Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Nia Jax et Reginald affrontent. Nia Jax et Reginald, pardon, accompagnent Shayna Baszler. Alexa Bliss, donc, on vous rappelle qu'elle a des pouvoirs magiques, hein, puisqu'elle a une poupée qui a des pouvoirs. Ça est lié à ce qui s'est passé avec Feu Bray Wyatt, qui a disparu des radars là depuis un bon moment. Apparemment, il est en dépression. Le pauvre.
Si vous voyez que ça lui, je le comprends.
Ben oui, alors là, elle lui a tout piqué. Donc, ça démarre avec Baszler qui attaque Bliss méchamment, des grands coups de latte dans la gueule, des coups de coude comme elle sait si bien faire. Mais ça ne fonctionne pas, hein, puisque ça fait simplement marrer avec sa Bliss. Elle rigole. Alors, Baszler va passer aux tentatives de soumission. Hein, elle va commencer à travailler le poignet, va lui tordre le bras dans tous les sens, elle va lui exploser le coude. Mais ça fonctionne toujours pas. Elle est toujours morte de rire avec sa Bliss. Alors, on va y avoir une tentative d'intervention de Nia Jax, mais en fait, Alexa Bliss arrive à hypnotiser Nia Jax, qui va mettre une tarte à Reginald. À Reginald, voilà, pauvre Reginald, le pauvre sommelier qui se prend une tarte tout à fait gratuitement. Après, Baszler va tenter, parce qu'elles font un face-à-face en plus, Bliss et Nia Jax, elles se gueulent l'une sur l'autre. Hein, on dirait que c'est Alexa Bliss qui fait gueuler Nia Jax de loin.
Oui, c'est en fait, elle mime quand Alexa bouge un bras, Nia bouge un bras, etc. Et donc, Alexa qui gueule, et du coup, Nia gueule aussi, en fait. C'est un peu comme son ombre.
C'est vrai, comme un reflet dans le miroir. C'est très, très, très impressionnant. Moi, j'étais un peu stupéfait. Baszler va tenter d'attaquer Bliss une dernière fois avec le Kirifu da Clutch. Alexa Bliss réussit à s'en sortir, tout simplement. Elle va lui placer le Sister Abigail, quand même. Joliment placé par Alexa Bliss. Et elle va ensuite placer le Twisted Bliss, hein, depuis la troisième corde, son saut Virevoltant, tournoyant, Shayna Baszler ne se relèvera pas. Victoire d'Alexa Bliss, donc, qui continue à porter son personnage de poupée maléfique. Fait des drôles de contorsions, hein, elle arrive à mettre son genou, ses genoux derrière les oreilles, tout en marchant, c'est marrant. Et voilà, donc on est toujours dans le monde fantastique de la WWE, le monde fantastique de Raw, les pouvoirs magiques, Shayna Baszler a perdu, Nia Jax, on nous explique que personne ne pourra la stopper, la prochaine victime sur la liste, c'est sûrement Nia Jax. Est-ce que toi, tu arrives à rentrer là-dedans ou est-ce que ça te laisse complètement froid?
En fait, c'est Alexa qui m'a sorti de ça avec ses... C'est longue semaine où il se passait rien. Alors, en fait, depuis le départ du film, alors, déjà que le film, c'était pas Jojo, parce que le film n'a pas été là pendant des mois.
Bah ouais.
Il revient, il repart tout de suite, et du coup, on se recolle Tina Alexa. C'est pas ma tasse de thé. Alors après, j'ai envie de pas tout jeter à la poubelle. On a vu le pire comme segment. Même le match en lui-même était honnête, il racontait une histoire à peu près pas mal. Il y a quelques trucs pas mal, effectivement, les interactions avec Nia qui sont pas, c'est honnête, voilà. Honnête, ça sera le mot clé du truc. Mais par contre, je crains le pire quand le public va arriver, en fait. Je crains le pire parce que ça manque de peps, ce truc-là, ça manque de retournement de situation, tout ça, c'est tout mou, c'est un rythme. Bah, un rythme du film mais version Alexa qui est les poupées, enfin la poupée, la manipulation, etc. Mais si ça se trouve, ça a carton avec le public, mais j'ai vraiment un gros doute. Quand je vois l'accueil de Mania quand ils sont allés dans la fin toute mollassonne et puis qu'ils s'arrêtent net comme ça, bah là c'est un peu le même style de fin et j'espère pour eux qu'ils sont en train de griller toutes leurs cartouches de mise en scène pendant que le public est pas là. Parce que je crains le pire quand le pic va revenir. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après, voilà, il fallait qu'Alexa gagne, mais elle catch vraiment à deux à l'heure. Quoi. C'est mou du genou, son histoire.
Ouais. Bah, tu ne sais pas pourquoi le public risque de se fâcher. C'est peut-être parce que c'est quand même pas bien Jojo tout ça. Effectivement, c'est pas très, très nerveux dans le ring. Après, c'est pas non plus catastrophique, hein, moi je suis d'accord, mais. J'espère effectivement que tout ça, c'est le temps qu'on n'ait pas de public. Et qu'après, il passe à autre chose. Parce qu'effectivement, c'est pratique pour faire du remplissage à Monday Night Raw. C'est le moment de faire des trucs comme ça quand de toute façon, il n'y a pas de public autour. Mais alors, quand on va revenir à la vraie scène, aux vraies ambiances, je pense que ça n'aura plus vraiment sa place, hein, tout ça.
Bah oui. Après... Parce que le problème, c'est que le film, quand il faisait des trucs comme ça, des petits segments un peu hors du temps, après, il déchaînait la violence, tu vois. Même Wyatt, à l'époque, Wyatt Family, hein, c'était pareil. Il y avait toujours des trucs, il y avait tous des gosses et tout, là, qui chantaient sa chanson. Enfin, tous ces trucs-là, c'était. Il y avait cette période-là, puis boum, violence derrière, violence avant, enfin, t'as de la violence tout autour. Et Alexa Bliss, je trouve qu'elle transmet pas du tout la violence, quoi.
Donc, non. Ouais, non, elle fait de son mieux, elle est pas ridicule. Elle en sort pas rabaissée. Le job, elle le fait correctement. Les autres aussi, hein, que ce soit Shayna Baszler ou Nia Jax, ça va, franchement, dans un contexte comme ça, ils s'en sortent plutôt bien. Mais ça va pas, c'est pas ça qui va dynamiser le show. Voilà, je pense que ça peut plaire à un certain type de public. Je pense que ce qui plaît surtout, à mon avis, au public américain, c'est Alexa Bliss. Maquillé puis dans cette petite tenue, mais sinon pour un fan de catch lambda, ça a quand même très peu d'intérêt. Et on espère qu'on vit les dernières heures, enfin du moins de mon côté, j'espère qu'on vit les dernières heures de cette rivalité, de ce type de spectacle. Alors tout ce qui est cinématique, wrestling, tout ça, j'espère que on mettra ça tout le dans le tapis ou dans un tiroir et puis qu'on nous ressortira plus ça une fois qu'on est c'était bien pour le temps qu'on était cloîtré chez nous, mais maintenant retour à la vraie vie, hein. Et retour à la vraie vie, c'est par exemple régler ses comptes avec ses meilleurs amis. Sami Zayn affronte Kevin Owens. Alors Kevin Owens qui s'est fait attaquer pas plus tard que vendredi par le commandant Aziz, qui lui a mis un méchant coup dans la gorge. Son fameux coup de pouce, là. Le clou nigérien, je crois que ça s'appelle. Et donc, du coup, il est quand même affaibli, Kevin Owens. Hein. Il a mal à la gorge, il a du mal à respirer. Et quand on est affaibli face à Sami Zayn, et ben ça ne pardonne pas, puisqu'après un match, encore une fois, bien disputé, 12 minutes 39 de match, c'est bien Sami Zayn qui gagne avec un Hell of a Kick dans la face de Kevin Owens. Victoire du rouquin paranoïaque. Est-ce que toi, ça t'a plu, ce match? Ou on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, Kevin Owens contre Sami Zayn? Ou
Alors
c'était la fois de trop?
le alors, tiens ça c'est marrant ça parce que du coup c'est effectivement Nail et moi j'ai traduit ça par l'ongle nigérien donc je sais pas si c'est le clou ou l'ongle
Ah oui, pour moi, Nate,
et
c'est le clou. Ouais, non, Nate, c'est le clou pour moi.
c'est les deux a priori je viens de
Ah,
vérifier
c'est
du
les
coup parce que
deux,
j'ai eu un doute
d'accord.
et je vois que c'est a priori les deux traductions sont bonnes donc moi je pensais l'ongle parce
Ouais.
que du doigt mais c'est peut-être le clou en fait justement ça serait plus violent qu'un ongle
Ouais.
à
Tiens,
vérifier. Bah non, mais tu sais, je faisais l'ongle dans la gorge. Bon,
Ouais,
bref.
bah ouais, ça se tient, ça se tient.
En tout cas, le gros coup dans la glotte, on va l'appeler comme ça,
Voilà.
qui a fait du coup souffrir. Alors, là, j'ai eu un petit souci. Parce que j'ai pas bien compris ce que vendait Owens, en fait. Il se vendait à la. Est-ce qu'il vendait la gorge ou est-ce qu'il vendait la main? Parce qu'une fois sur deux, il avait mal à un endroit. Et il y avait mal à la main, mais il toussait. Donc, je ne savais pas trop ce qu'il vendait. Et ça m'a un poil perturbé. Le reste du match, par contre, j'ai trouvé ça super bien. Dans le sens où, bah, en fait, tu sens la victoire de Zayn arriver. Et il gagne clean. Enfin, clean. Dans la mesure du possible. Avec un vrai finish, en tout cas. On en parlait tout à l'heure. Qui est pas de vrai finish là. Tu as un vrai finish. Un bon coup de pied dans la gueule. Qui fait plaisir, en fait. Parce que même si. C'est le heel qui gagne, bah, au moins t'as une vraie fin, voilà, t'as eu pas mal de rebondissements dans le match. Le seul truc qui moi baisse un peu le, si je devais noter, qui baisse un peu la note du truc, c'est que je trouve que les Owens Zayn, ils ont été vendus à chaque fois à l'arrache, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as une histoire qui est bien entre les deux, et à chaque fois t'as pas grand-chose qui se passe pendant des semaines, des semaines, des semaines, et puis 2 semaines avant le pay-per-view, au fait je supporte plus, boum, on se voit à WrestleMania, boum, on se voit à NSL en l'occurrence. Et boum, et d'un coup, il y a la haine à mort dans le match. Alors, je sais bien qu'ils se supportent pas, mais c'est dommage de pas plus appuyer là-dessus sur la weekly, quoi, parce que ils ont tous vagabondé sur d'autres histoires avant. Et puis, du coup, hop, ils se retrouvent juste avant le pay-per-view, et c'est un poil dommage, je trouve, parce que pour le coup, là, j'ai bien senti la haine entre eux dans le match, et j'ai trouvé qu'il était bien foutu, bien troussé le match, avec pas mal de violence. Et le finish est sympa. Encore une fois, le finish est vraiment bien exécuté. Ils ont montré pas de ralenti parce qu'il se le prend bien dans la gueule le pied et en plus Zayn avec la bouche en sang ça rajoute un petit peu de d'image au truc quoi voilà c'est mon seul petit point noir c'est le building qui c'est tellement facile finalement cette rivalité que du coup j'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts.
Ouais, trop facile de les mettre tous les deux sur la carte et puis voilà, en 2 semaines c'est réglé. C'est dommage parce que c'est pas comme si Kevin Owens et Sami Zayn, si on les voyait la semaine, on n'était pas content quoi. On peut avoir des longs segments avec Sami Zayn toutes les semaines ou Kevin Owens, généralement c'est toujours bon quoi. C'est pas ils ont peu de chances de se casser la gueule avec ces deux-là. Puis je pense que plus ils sont à l'écran, plus ils savent y faire. Donc c'est quand même dommage effectivement de chaque semaine de se priver de ces deux-là pour finalement arriver en pay-per-view avec un gros match.
Ils sont là,
Bon.
mais ils tournent autour d'autres choses, quoi. Ils tournent autour de
Ouais.
Biggie, ils tournent autour des ceintures intercontinentales.
Ouais, c'est ça. Et puis finalement, on n'a pas de Biggie ce soir, on n'a pas d'Apollo Crews, il n'y a pas de ceinture. C'est juste un règlement de compte entre deux potes. Ça fait un bon match, on a un bon finish. Mais bah, c'est pareil, on reste sur notre fer parce qu'on voudrait quelque chose d'un peu plus consistant quand même entre les deux. Donc on aura peut-être encore. Surtout que c'est bah, du coup, ça va pas être fini là parce que je pense que Kevin Owens il va vouloir sa revanche
Peut-être
à
pas
un
une
moment
pause,
donné ou un autre.
il prend
Ou
vraiment
alors
cher, quoi.
il prend des vacances. Et il reviendra pour SummerSlam.
Possible.
Ouais. Bon, voilà. Bah, un match. Un coup d'épée dans l'eau, on peut dire. Oh, c'était quand même
Non,
joliment
comme pas. Non, franchement,
exécuté.
c'est un match de niveau pay-per-view.
Ouais,
Voilà,
quand même.
ce qui est dommage, c'est de pas assumer finalement qu'on veut faire un Owens Zayn. Ça, pendant deux semaines, tu nous vends autre chose et puis au final, tu rebats là-dessus parce que tu sais que c'est ce que les gens veulent. Et je confirme, moi, c'est vraiment un match que j'ai envie de voir et que et qui me satisfait, ça, qui est dans la bonne moyenne de ce pay-per-view. Hein, mais...
Ouais, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Sami Zayn et Kevin Owens, c'est deux main eventers, en fait. Donc tu les prends et tu les mets sur la carte. Tu es obligé de les avoir sur ta carte de pay-per-view. Sinon, ça veut dire qu'il te manque de tes main eventers. Donc il faut arrêter de les faire passer pour des et pour de la low card dans les émissions weekly.
Parce qu'on j'espère si jamais ils doivent se séparer que Zayn ça lui permet de pousser là faut qu'il capitalise dessus parce qu'on parlait de Bayley en début de show de pay-per-view. Zayn aussi c'est un gars sur qui là il a vraiment montré pas mal de choses intéressantes et au micro et dans le ring de là, depuis des mois. Ça fait partie des gars. Si son physique ne le lâche pas, ou tu as envie de, quand même de capitaliser un peu dessus, là.
Ouais. Il faut garder Sami Zayn en haut de l'affiche. Et puis voilà, c'est un mec sur qui il faut monter les émissions. Weekly, quand on ne sait pas. Par exemple, on peut l'envoyer à Monday Night Raw, et puis il sauve Monday Night Raw, quoi. Voilà. Bon, on est un peu mitigé, mais on est quand même content. Allez, du côté de Raw, justement, le championnat des femmes, Rhea Ripley contre Charlotte Flair. C'est un match qu'on avait eu à WrestleMania l'année dernière, dans le WrestleMania sans public. Et bien, on est encore une fois sans public cette année. Et on a peu ou prou la même chose, hein. C'est une grosse démonstration de chaque côté, hein. Chacun sort son arsenal de prise. Charlotte Flair va travailler la jambe de Rhea Ripley pendant un bon moment. Le bras aussi. On va aller faire un natural seduction pour un near fall, comme on dit, le compte de deux. Des tentatives de moonsault, mais qui sont esquivées par Rhea Ripley. Donc c'est finalement Flair qui prend quand même l'avantage en travaillant bien la jambe de Ripley, elle va tenter notamment la figure 8, la prise en 8. Mais à un moment donné, Ripley et Flair vont s'exporter à l'extérieur du ring. Et Rhea Ripley va utiliser la protection de la table des commentateurs pour frapper Charlotte Flair. Et là, à la surprise générale, c'est la disqualification. Rhea Ripley est disqualifiée, elle perd le match, mais du coup, elle conserve sa ceinture. Charlotte Flair, victoire à la Pyrrhus. Et Ripley qui se pavane en disant, bah tiens, je t'ai fait ce que tu m'aurais fait, hein, comme dans la famille Flair. Je conserve mon titre. Intelligemment, voilà, elle a été roulée dans la farine, Charlotte, après quand même un match très physique. Est-ce que ça t'a plu, tout ça?
Alors j'ai trouvé que le match avait du mal à démarrer. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais été refroidi par le building du match que j'avais pas du tout aimé. Même leur fight du Gomchu, j'étais pas rentré dedans du coup parce que elle m'avait tellement fâché les semaines d'angle, du coup j'avais pas réussi à accrocher. Et là c'est pas au début du match, j'étais pas chaud du tout. Puis je trouvais qu'elle manquait d'un peu d'intensité au début par rapport toi. Je compare toujours à l'autre match féminin de poids ceinture. Je trouvais que Belair, tu sentais plus ses impacts, quoi. Là, c'était, t'avais des big boots, des machins, des gros moves, mais je sentais pas cette castagne, là, tu vois. C'était après, au fur et à mesure du match, j'ai trouvé que c'est l'intensité montée. La fin, effectivement, tu sens que Charlotte est en train de prendre le dessus. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un truc qui se passe. Et puis d'un coup, boum, disqualification. Et c'est là où tu souffres un peu du positionnement des deux filles avant le match parce que finalement elles sont heel contre heel, même si Ripley on sait pas trop ce qu'est, enfin je pense qu'elle est heel, moi pour moi elle est heel depuis qu'elle est arrivée à Raw, elle est heel, mais les heels sans trop l'être, les heels sans trop l'assumer, donc c'est plus quoi ce que je déteste.
Bah oui, le heel dominateur qui ne triche pas.
Voilà, et puis qui au final elle triche quand même, elle triche, ouais, mais oui. Elle triche moyen, quoi. C'est ah, t'as vu, j'ai triché. Ouais, mais dans ces cas-là, si c'est juste pour faire ça, tu peux le faire dès le début, quoi. C'est il contre il, enfin,
ouais, c'est pas après t'être mangé un match de 15 minutes où t'as tout donné que tu t'amuses à tricher. Enfin,
Ouais, ou alors ça sent plus. Et surtout que c'est vendu comme ça, tu vois, c'est vendu du style web, t'as vu, en fait, je suis plus malin, j'ai fait ça. Non, mais c'est. À la limite, ça aurait été bien que ça soit vendu comme un sentiment d'impuissance, genre, je suis en train de perdre le fil, et du coup, j'utilise ça. Là, les deux, le sourire à la fin, genre, ah oui, bien joué à ma copine, hein, je te déteste, mais t'es maligne, hein, mais bon. Ce sera certainement pour allonger la sauce, mais c'est une sauce à laquelle j'adhère pas. S'il reste sur un truc heal contre heal, je pense que ça risque d'être un peu long. Parce que il faut au bout d'un moment qu'on puisse avoir envie d'avoir un des deux qui gagne, quoi. Tu sais, un peu l'intérêt du catch, c'est de pencher pour l'un des deux. Si c'est juste pour faire du spectacle, bah, y a d'autres fédérations pour ça. Est-ce que le public va faire pencher la balance? Peut-être. Est-ce que quelqu'un d'autre va s'insérer là-dedans? Serait peut-être. Alors même si du coup, je pense qu'elle a été trop mal buildée, mais c'est peut-être le moment de ramener Nikki Cross, en l'occurrence, qui pourrait faire l'office du babyface sur qui tu as envie de miser. Ou Asuka, mais Asuka, elle a pris trop de défaites ces temps-ci, donc je n'ai pas envie de la remettre dedans, malheureusement, même si je l'aime beaucoup. Donc je ne sais pas. Encore une fois, on a un match pas mauvais, mais par contre, bah, le finish n'est pas bon. Enfin, j'aime pas ça. Et puis du coup voilà, ça dévalue encore une fois le match. Je suis content que ce soit le pay-per-view sans public, hein, franchement, parce que des finishes comme ça, c'est, je pense qu'ils auraient pu se prendre des huées, encore une fois.
Ouais, je pense que ce soir-là, il y aurait eu de tonnes et tonnes de huées pour les finishes. Ouais, bah c'est un gros cafouillage, enfin un gros cafouillage, c'est-à-dire que comme tu dis, hein, le build est pas bon, le finish est pas bon, les positionnements sont pas bons. Voilà, quand tu pars avec tout qui est contre toi, tu peux pas forcément sortir un grand truc, même malgré tout leur talent, hein, parce que c'est pareil, le match il est propre, c'est deux bonnes catcheuses. Mais comme en plus t'as pas de public, tu sais pas du tout si ce qu'elles font fonctionne ou pas. Et puis je te rejoins parfaitement, hein, le problème je pense c'est que c'est heel contre heel, quoi. Donc elle est pas assez populaire à Ripley à l'heure actuelle pour s'imaginer que le public ait envie qu'elle gagne plus que ça. J'ai pas l'impression. Et Charlotte Flair, de toute façon, on sait qu'elle a. Elle a été trop 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 exposée, hein. Les gens ont un peu ras-le-bol d'elle. Donc effectivement, injecter une troisième personne dans la tambouille, ça me paraît peut-être la seule chose possible pour relever le plat un peu, rendre ça plus digeste. Parce que là, en l'état, c'est mal foutu, hein, tout simplement. Hein. Donc quand c'est mal foutu, c'est mal foutu. Le positionnement heel face, c'est important, hein. Ça, moi, je le dis souvent, mais.
Bah ça aide à t'investir un petit peu là. Là, c'est. Et puis, surtout, aucune des deux n'évolue en fait là depuis des semaines. Hein.
Ouais.
C'est plat.
Ouais, bah Charlotte,
Dommage.
ils ont déjà tout fait avec elle, hein. Je veux dire, c'est quand même maintenant c'est la tôlière. Et Rhea Ripley, bah, elle est arrivée au mauvais moment, donc c'est bien, elle est championne, etc., etc. Mais
Je pense qu'ils auraient dû la foutre full heal, moi. Je reste
ouais,
persuadé.
carrément, ouais.
Pas dû
Et
la
puis
foutre
une
foot,
et puis
full
vu.
heal dès le début. Pas faire un truc entre les deux à se dire ouais, mais bon, elle va être soutenue par les publics un peu smart, tout ça, donc ce serait bien comme de pas la foutre trop heal. S'il la foutait, genre elle perd. Moi, perso, je l'aurais fait perdre à Mania contre Asuka. Ensuite, full heal, elle reprend la ceinture Asuka derrière en mode ultra violente, et derrière, tu te déroulais tranquille en fait.
Ouais,
Et là, j'ai
parce que
l'impression qu'ils lui ont donné le titre super vite, sans trop assumer son statut, puis bah depuis, ça ronronne.
ouais, non, ils ont pas le personnage est pas vraiment finalisé vu son gabarit, vu son physique. Je veux dire, ce serait pas étonnant de l'avoir envoyé des autres gonzesses à l'hôpital, quoi, carrément,
Carrément.
quoi. Donc, ouais, la fasse passer vraiment du côté obscur, qu'elle soit bien méchante. En plus, je sais pas, elle a le physique pour, elle a le look aussi pour, hein, avec sa tête de copon. Avec ses épaules de camionneuse là, il n'y a pas de raison, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle soit gentille en vérité. Donc voilà, hein. Allez-y Franco. Et puis de toute façon, il va falloir que quand le public arrivera, elle, à mon avis, elle a des choses à prouver encore, donc il va falloir qu'il la mette dans des situations où elle peut vraiment tirer son épingle du jeu, parce que sinon, elle va rester à une position de lambda de quelqu'un qui est arrivé trop haut, trop vite, quoi. Hein. Voilà, bah ça c'était le championnat féminin. C'était voilà, je suis toujours un petit peu
Un peu perdu là, je
perplexe.
sens.
Non, c'est le, je suis perplexe sur tous ces finishes. Je me dis qu'est-ce que c'était quand même que ce pay-per-view. Le main event, voilà, il est là, il arrive. On est toujours dans la cellule de l'enfer. C'est Bobby Lashley, le champion, qui va affronter donc Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a mis toute sa carrière en jeu quasiment, puisque s'il perd le match, il ne pourra plus jamais affronter Bobby Lashley, pourra plus jamais le défier pour le titre. Bobby est toujours accompagné de MVP. Donc ça rentre dans la cage. C'est quand même la grosse domination de Drew McIntyre, hein, sur Bobby Lashley pendant un bon moment. Il va y aller franco, tout en puissance, McIntyre. Jusqu'à ce qu'il attrape des chaises, mais non, pardon, les escaliers de fer. Mais là, Bobby Lashley va le contrer. C'est lui qui va exploser la tête de McIntyre avec les escaliers en ferraille. Donc maintenant, c'est un peu Bobby Lashley qui va prendre l'avantage. Il va utiliser des kendo sticks, des gros coups, mais au bout d'un moment, McIntyre en a marre. Il va bloquer les kendo sticks et c'est lui qui va taper sur Bobby Lashley. Et ça va continuer comme ça, des gros coups dans la gueule, des grosses souplesses et des utilisations de chaises aussi, hein, des tables aussi. Ça va être la folie. Et au bout d'un moment, comme c'est le bordel complètement organisé, il y a MVP aussi qui rentre dans l'histoire. Hein, il va donner sa canne à Bobby Lashley qui va te taper sur la gueule de McIntyre, mais ça va pas suffire à hein, tuer l'Écossais. On va se battre à coups de chaise, et à un moment donné, il y a une chaise qui va partir dans la gueule de l'arbitre. L'arbitre est HS. Juste au moment où McIntyre va placer son futur choc DDT sur Bobby Lashley, ça va être parti pour le tomber, mais évidemment, il n'y a plus d'arbitre puisqu'il a été sonné par la chaise. Donc là, il y a un nouveau arbitre qui va arriver. Il va rentrer par la porte, mais ça va permettre à MVP de rentrer dans le match. Alors, ensuite, quand McIntyre va faire le tombé, c'est MVP qui va empêcher le tombé de se terminer. Hein, il va tirer l'arbitre. Là, McIntyre va se jeter sur MVP. Il va le passer à tabac. Et alors, après, il y a Lashley, évidemment, qui va revenir dans l'action. Il va tenter le Heartlock. Mais McIntyre va s'en sortir à nouveau. Alors, ils sont à l'extérieur du ring. McIntyre est bloqué dans le Heartlock. Il va écraser Bobby Lashley contre une table. Il va ramener Bobby Lashley dans le ring. Il le passe à tabac à coups de chaise. Il va tenter le Claymore. Mais Bobby Lashley va éviter le Claymore. Il va choper McIntyre, chokeslam à l'extérieur du ring. Sur une table qui était posée là. Lashley va tenter un spear ensuite dans le ring, mais McIntyre va esquiver. Lashley se mange le poteau. Et ensuite, McIntyre va se préparer. Enfin, il va tenter surtout le tomber. Ça passe pas. Futur choc d'EDT. Il se prépare pour le Claymore ensuite, mais il y a MVP qui attrape la jambe de McIntyre. McIntyre va se retourner vers MVP, et là, à la surprise générale, Lashley, comme un taureau, va attraper McIntyre et lui faire un roll-up. Petit paquet, 1, 2, 3. Et c'est la victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre sur Roll-Up. Le pauvre McIntyre est défait. Il ne pourra plus jamais défier ce bon vieux Lashley. Voilà, un Hell in a Cell qui se termine sur un Roll-Up.
Aïe, aïe, aïe.
Je ne m'en suis pas encore remis. Pourquoi j'ai regardé tout ça? Je t'en prie, explique-moi, mon bon papy.
Pourquoi t'as regardé de ça? Mais parce que c'était un super Hell in a Cell dans 99% de son déroulé, finalement.
99,99 même, je dirais.
Voilà, 99,99, avec un Drew McIntyre qui est en mort de faim, qui sait que c'est sa dernière chance, et puis qui fait un... Il a massacré Bobby Lashley. Alors, ça faisait bien, bien longtemps qu'on ne l'ait pas vu se faire malmener comme ça. Le pauvre Bobby, il a volé dans tous les sens. Il s'est pris des chaises, ouais, des tables, ouais. Des candlesticks, la grille. Ah bon, il va le tuer. Ah bon, il le balance contre la grille, là. Je ne sais plus comment il fait exactement, mais il se retrouve par terre, là. Lashley, il est totalement dans les vapes. T'as MVP qui lui parle en dehors. T'as l'impression qu'il ne voit plus rien, Lashley. Il va rechercher des escaliers pour lui rebalancer sur la gueule. Enfin, c'est
ultra, ah, il veut le tuer, hein, clairement.
Il veut vraiment le buter. Bon, le rêve bump, archi-téléphoné avec McIntyre qui voit plus rien avec un doigt dans l'œil et puis qui du coup met un coup de pièce à l'arbitre, qui du coup fait rentrer MVP, qui du coup intervient. Bon, ça c'était bien téléphoné, mais MVP se fait casser la gueule, donc tu te dis, ah, que va-t-il se passer? Et McIntyre fait vraiment tout pour gagner, quoi. Il domine archi, puis effectivement, il passe à travers une table. Alors c'est marrant parce que je sais pas si j'ai rêvé ou, mais je pense avoir vu la main de MVP qui était cachée sous le ring à ce moment-là virer les débris parce qu'il a dû se prendre tous les débris dans la gueule alors qu'il était caché sous le ring.
Ouais.
Parce que tu vois McIntyre qui est à la table, tu vois une main qui sort de sous le ring qui vire les débris. Et mais bon, donc du coup, même si tu t'en doutais déjà qu'à 3%, bah le fait de voir le mec caché sous le ring, tu te doutes à 100% qu'il va re-avoir une intervention.
Mmh.
Et c'était MVP pour le roll-up final. Alors j'arrive pas à être totalement en colère avec ce roll-up parce que je me dis c'est une façon de protéger un McIntyre qui était en feu comme pas possible et de dire que même s'il pourrait plus être challenger numéro 1, ça reste le méga top guy de Raw. Donc j'arrive pas à être trop en colère, ce qui mais en même temps c'est comme tu dis, c'est pour le main event. En plus ça fait suite à une DQ et un autre roll-up. C'est vraiment dommage. Sur les 6 matchs, il y a quand même 3 finishes qui ne sont pas clean, quoi. C'est...
Ouais, non, c'est ça que ça, c'est. On ça est gavé, de... Peu, ouais, gavé de la même formule là, de finish expéditif. Voilà, tu ne fais pas 2 fois le même finish dans la soirée sur deux championnats du monde. Hein.
En plus,
c'est dommage parce que le match était magnifique. Hein. Hormis
non,
ça.
Non, l'autre lob, ce n'est pas sur le championnat du monde, c'était sur le Rollins Cesaro.
Ah oui, pardon.
Par contre, tu avais un dirty finish sur l'autre féminin, sur le championnat du monde des filles. Mais voilà, t'as... Et c'est dommage parce que moi, je pense que si tu n'avais pas eu ce roll-up, ça aurait rajouté à la légende des méga matchs de l'année, là. Et ça le baisse un petit peu dans mon estime. Ça ne le baisse pas non plus totalement parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est dommage, tu n'es pas loin du perfect, là.
Ouais. C'est ouais parce que alors moi j'étais franchement sur ma fin sur quasiment tout le pay-per-view, il y a aucun match qui m'a convaincu hormis l'opener qui était plutôt sympa, mais bon ça reste un opener, c'était pas un show stealer de la soirée, c'est juste bien pour ouvrir les hostilités et tout le déroulé de ce match là entre McIntyre et Bobby Lashley, j'étais bien là, j'étais dans mon catch, c'était impressionnant, des gros spots, du sang, tu vois que les mecs quand même ils se donnent des interventions d'MVP. Ouais, voilà, t'as un bon gentil, un méchant qui lâche pas l'affaire. Ouais, et puis un McIntyre dominateur là pendant tout le début du match. Tu dis ouais, ça, il mérite sa victoire. Il est en train de lui mettre la fessée à Lashley. Lashley quand même qui tient bon, qui nous fait traverser les tables, etc., etc. Et puis finalement, tu termines sur ce petit roll-up là, tout pourri. Voilà, je suis perplexe, je sais pas quoi penser de tout ça. Quel est le but? Je continue de penser qu'en fait ils gardent l'artillerie lourde pour le retour du public, hein, tout simplement.
Mais, là, ça sera pas entre les deux du coup.
Mais ça ne sera pas apparemment entre les deux. C'est quand même dommage parce que je sais pas, je trouve que c'est mal payé pour McIntyre. C'est quoi qu'il arrive, ça entache quand même Bobby Lashley. C'est pas le genre de finish. Putain, ça met pas en valeur ton produit, ça met pas en valeur tes catcheurs, ça met pas en valeur ton pay-per-view. Ça donne pas forcément envie d'aller regarder Raw le lundi. Et c'est quand même dommage parce que putain, le match il était quand même sacrément spectaculaire. Hein. Je disais, il faut des tauliers pour un Hell in a Cell. Là, voilà, on a deux vétérans qui savent ce qu'ils font, qui se connaissent. Et qui n'ont pas peur de casser des trucs et de se faire mal. Hein. Bobby Lashley, il aime bien hein, les matchs comme ça, no holds barred. Même si c'est plus connu comme un gars legit, technicien un petit peu, powerhouse, mais quand il faut détruire du décor, il est là.
Ouais, c'est bien dans le brawl. Hein.
Ouais, il quand même, là, il a jamais été aussi bon, quoi, Lashley. Et puis McIntyre, il assure quand même. C'est d'autant plus décevant qu'on ait ce finish parce que même MVP hein, il est à sa place comme il faut, il fait ce qu'il faut. On espère que je sais pas qu'on va pour chacun, on va avoir un projet costaud pour SummerSlam hein, et ils le méritent tous ça, dans cette histoire. Il faudrait pas qu'il y en ait un qui, qui pâtissent de ce booking de Hell in a Cell, carrément décevant, qui arrive en fin de période de confinement. Je suis perplexe, mais en tout cas, sacrée performance des deux. Hein. Voilà, regardons le truc positif, le côté positif de l'histoire. Si vous devez regarder qu'un match, regardez celui-là, hein, au final, je pense.
Ouais, et puis, comme on le disait, c'est le dernier show sans public. Bah, quelque part, quitte à griller un finish un peu pourri, autant le mettre dans ce show-là, quoi. Et je le comprends en même temps, le finish. Hein, ça protège McIntyre. En même temps, je pense qu'il fallait absolument que McIntyre perde pour sortir de cette rivalité. Il était trop fort pour ne pas être dans le main event, en fait. On en parlait avec tonton. Moi, je pense qu'il va passer du côté SmackDown, McIntyre. Et du coup, tu peux pas, enfin, vu que la draft est prévue dans 2 mois, même pas, un mois et demi, je pense que c'est le seul moyen de le sortir du main event sans le désavouer. Donc, ça fait pas plaisir, mais je comprends le finish.
Ouais. Il y a Money in the Bank avant SummerSlam.
C'est ça, oui.
Mais il sera en public, Money in the Bank.
C'est ça, le public revient au SmackDown 2 jours avant le Money in the Bank.
D'accord. Bon, bah, il va se passer sûrement plein de choses à Money in the Bank, alors. Hein.
Ah oui, il y aura la surprise, là. Là, ils vont garder des cartouches, j'espère. Hein.
Toutes les portes sont ouvertes. Est-ce qu'il prévoit, parce que là, du coup, qu'est-ce qui va se passer à SummerSlam? Alors, est-ce que McIntyre, qui gagnerait la mallette, qui jouerait la mallette à SummerSlam pour récupérer le titre?
Pourquoi pas, mais après, ça gâcherait mon booking de dire qu'il va à la SmackDown.
Ouais, c'est pas faux.
Donc, McIntyre qui tente par la mallette et qui se la loupe à cause de quelqu'un et qui, du coup, bute ce quelqu'un à SummerSlam.
Ouais.
C'est genre un...
Ouais.
Gestal, soit un machin, c'est un McIntyre et Gestal à SummerSlam, ça se vend bien aussi,
ça
quoi.
Ça se vend bien aussi.
Et Lashley, est-ce qu'il va partir avec Kofi, du coup?
Ah, il y a Kofi Kingston aussi dans l'histoire.
Il traîne un peu par là, mais par contre, ouais. Tenir jusqu'à SummerSlam contre Kofi. Moi, j'aime bien Kofi, hein. Voilà, quand il était champion, on a vu que malheureusement, il y avait ses limites.
Ouais. Alors après, un deuxième essai peut être concluant. Il ne serait pas le premier à avoir fait un premier règne de merde et à enchaîner sur quelque chose. Et surtout qu'il est bien en jambes aussi, hein, Kofi Kingston, au niveau des matchs, là, les derniers matchs qu'il a sortis, ils sont sacrément impressionnants. Hein.
Ah oui, il est bien là.
Un des bons côtés de Monday Night Raw, c'est les performances de Kofi Kingston, là. Il rappelle un peu que, quelque part, il a toujours été un gros projet WWE et que c'est quand même un des meilleurs catcheurs de la planète, en vérité. Hein. Quand tu vois les déroulés qu'il fait, on a un peu tendance à l'oublier, on le cite rarement, mais il a un putain de talent entre les cordes, quand même, Kofi Kingston. Donc ouais, pourquoi pas, un affrontement Kofi-Lashley. Alors, on parle aussi d'un retour de Lesnar. Ah. Lashley-Lesnar, ça pourrait être une affiche aussi.
L'affiche qui est vendue depuis des années.
Ouais, voilà, bon, voilà. Ça ne demanderait pas de booking, hein, c'est simplement tu fais revenir Lashley et puis tu le fais affronter. Enfin, tu fais revenir Lesnar, tu le feras affronter Lashley sur le passé de combattant de Mixed Martial Art, d'un côté comme de l'autre.
Tu le fais revenir, vu que le premier row, je vais y arriver avec du public, ça sera le lendemain de Money in the Bank, ce sera le premier row de la Road to SummerSlam, bah, tu peux faire revenir Lesnar à ce moment-là, effectivement, ça. Ouais.
Si vraiment ils ont un contrat avec lui,
ça pourrait sous le sens.
S'ils ont réussi à le re-signer, ça pourrait être ça. Mais bon, après, est-ce que tu vas te faire perdre Lashley contre Lesnar après avoir buildé Lashley comme ça?
L'avantage, c'est que si tu as un Lashley-Lesnar à SummerSlam, tu peux t'en sortir à peu près avec n'importe lequel des deux vainqueurs.
Ouais, c'est pas faux.
T'as pas de mauvaise solution, j'ai envie de dire. Enfin, sauf si tu buildes comme... tu rates complètement ton truc et que ça dure 10 secondes, mais tu dois pouvoir réussir à faire un truc intéressant. Surtout que ça, au moment de retour de Lashley, c'est quand même, on se disait, il va affronter Lesnar, tu vois. C'était en plus, comme tu disais, le mec un peu legit. Donc, contre Lesnar qui est justement buté comme avec legit. Donc, c'était les deux monstres de foire legit. Tu le voyais arriver gros comme une maison et il s'est jamais venu finalement.
Ouais, bah oui, il y a eu quand même un booking très bizarre de Lashley pendant. De bons mois, voire une bonne année, voire 2 bonnes années. Parce qu'on rappelle quand même qu'il s'était fait squasher par Finn Balor à une époque.
Ouais, il perd contre Aleister Black à Mania.
Il perd contre Aleister Black à Mania.
C'est depuis que ça va mieux.
Ouais, voilà. En quelques mois, là, ils l'ont reconstruit, alors qu'ils auraient pu faire ça depuis le début. Hein. On n'aurait pas été choqué de voir un Lashley dominateur dès le début. Hein. Il gagne quand même son premier match contre Roman Reigns quand il
Oui.
revient. Mais le problème, c'est que pendant tout le match, il se fait botter le cul par Roman Reigns, quoi. Donc, il n'a pas du tout brillé. Et derrière, il a jamais. Pendant un bon moment, ils l'ont fait patiner dans la semoule. Maintenant, il est au top. En plus, il vient d'enchaîner plusieurs victoires contre McIntyre. Personne là est susceptible de le faire trembler. Donc, bah, ce serait un bon candidat. Bah, d'un côté comme de l'autre, hein, Kofi Kingston qui retourne vers la gloire perdue. Puis il y a l'histoire avec MVP aussi. C'est plutôt bien
Ouais, c'est
mené.
pour ça que je miserais dessus. Effectivement, là, maintenant qu'on en parle, peut-être un Kofi versus Lashley à Money in the Bank et un Lashley versus Lesnar à SummerSlam. Enfin,
Ouais,
ce serait
ça
deux
peut être.
affiches qui m'iraient très bien, perso.
Ouais, ça peut être. Ouais, ça nous prévoit de belles choses. Ça, tous les deux sont appétissants. Après, McIntyre, contre qui? Ça, c'est une bonne question.
Bah, contre le connard qui le fera perdre à Money in the Bank.
Voilà, c'est ça.
Je vois venir ça. Et du coup, une tête à claque, et ben moi je dis Edge Styles, tête à claque en chaise.
Jet Slice. Ah, bon, Jet Slice. Mais il est dans la division tag team, Jet Slice. C'est pour ça que je saute pas sur le
Ouais,
truc.
mais
Mais
il va pas pouvoir rester 107 ans avec Omos, en fait.
Ouais,
Et
faudra bien que ça.
puis Orton et l'autre con, je trouve plus son nom, tiens, Riddle,
Riddle.
ils vont bien finir par s'intéresser aux ceintures, là, quand même. Et en plus, ils viennent de battre le New Day. Il ne reste pas grand-chose pour être challenger numéro 1, je pense. Il y a les Viking Raiders de leur avaler, éventuellement. Mais
Bon, après, est-ce que
c'est
ça
pas du...
va?
on parle pas du tout du même niveau, là.
Ouais. Est-ce qu'on partirait pas sur un Riddle Orton aussi pour Mania? Pour SummerSlam? Mais
Ça
à
ferait beaucoup
voir.
de choses à booker en 2 mois, là.
Ouais, bah ouais, du pas sur la planche, mais bon, il faut que le SummerSlam il claque. Hein. Même si c'est bon, ça, mais je suis très content maintenant de savoir qu'on va avoir un bon Money in the Bank. J'avais pas percuté moi, mais que le Money in the Bank sera entre-temps et sera en public.
Mais je pense qu'il a été justement repoussé pour ça, qu'ils
Ouais.
ont remis le NESL à l'avance, parce que
Ouais, ouais.
l'NESL avec la cage, tu peux faire une ambiance dans la cage où finalement, entre guillemets, t'as pas besoin de public, même si le public c'est toujours un plus. Dans une cage, ça se ressent moins l'absence de public, je trouve.
Mais c'est tout à fait vrai. Ouais, non, ça c'est vraiment une bonne idée par contre d'avoir placé là tout de suite à l'Inocel, qu'on en soit débarrassé quelque part. Parce que c'est rarement non plus transcendant, hein, à l'Inocel. Le fait qu'ils aient transformé la gimmick en pay-per-view, ça a quand même pas mal tué le truc, quoi. Donc ça, l'Inocel, c'est un peu comme Elimination Chamber, il faudrait le garder comme Joker pour booster les trucs, mais un peu surprise, quoi. Faut pas que ce
Bah,
soit
Chamber,
placé.
c'est devenu aussi maintenant un pay-per-view classique maintenant.
Ouais, un passage obligé. Bah, c'est ce qui, je trouve, qui affaiblit pas mal le truc. Hein.
Comme TLC d'ailleurs. TLC, c'était super quand ça
Ouais.
sortait un peu de chapeau.
Ouais.
Là, maintenant que tu dois en faire 2 ou 3 par an, bah, là, tu vois le NSL, hein, le NSL Mysterio Reigns, il était mis là juste pour dire deux. Il justifiait pas des masses et le match, bah, voilà, moi, je l'ai déjà oublié, par exemple.
Ouais.
Et pourtant, je sais qu'il était pas mauvais, mais. C'est
Ouais, c'est ça.
la population.
C'est jamais mauvais, mais du coup, ça reste pas dans les mémoires parce que c'est clairement booké pour être booké. On le voit arriver à l'avance, quoi. Donc, il n'y a pas de progression dramatique qui fait que, à un moment donné, on se dit, ouais, putain, c'est une bonne façon de finir le truc. Non, c'est prévu à l'avance, avant même que c'est commencé. Donc, ça n'a pas la. Ça ne percute pas pareil. Voilà, bah écoute, on a fait le tour du pay-per-view, donc on va peut-être passer au mot de la fin, qui consiste à donner un top, un flop, une note.
Oui, avec grand plaisir, Ringside.
Ouais, bah je t'en prie.
Du coup, mon flop, alors je pense pas que je vais faire dans l'originalité aujourd'hui. Le flop, je vais le donner à Bliss Baszler, parce que globalement, c'était le moins bon match des 6, hein, sans sourciller. On a eu 5 vrais matchs de catch à plus ou moins réussis, avec comme de l'intensité, du rythme, etc. Il n'y a pas vraiment pas de match raté. Il y a celui-là, là, où qui est plus psychologique, plus lent, plus moins intéressant, si on peut se permettre de le dire. Donc, sans trop de soucis pour ce match-là, qui est vraiment en dessous des autres pour moi. Le top, du coup, moi j'ai bien aimé les deux et les Nocelles, qui sont au-dessus tous les deux au-dessus du lot, je trouve. Mais je donne quand même ma préférence au main event, qui, comme on le disait, est à 99,9%. Parfait Grosse intensité, moi, ils m'ont complètement captivé. Et le finish, je le pardonne dans le contexte qui est de dire, bah voilà, ça pas de lancer une histoire avec McIntyre qui peut plus être challenger, et mais qui en même temps est buildé comme un mec qui pouvait tuer le champion, quoi. Ça comptait qu'il peut être champion, mais il peut plus l'être. Donc, tu vois, ce paramètre-là me fait pardonner le roll-up. Et ma note, alors je vais donner une note qui est bonne dans mes critères, qui fait partie, qui pour moi c'est un des meilleurs pay-per-view depuis le début de l'année. Si j'oublie la nuit 2 de WrestleMania, qui pour moi reste comme largement le top. Et donc je vais donner un 3,25, qui est.
Belle note.
Pour moi, une belle note en absence de public. Donc je pense qu'avec du public, c'est. Et des chants et tout ça, et pas juste des trucs programmés par l'ingénieur du son, je mettrai des meilleures notes. Mais globalement, j'ai bien aimé la plupart des matchs, mais j'ai pas non plus explosé de joie pour tous les petits bémols qu'on a mis un peu partout, le manque de build-up par moment, le manque des finishes un peu foirés par d'autres. Donc voilà, mais c'était pas, franchement, il y avait rien de dégueulasse en show, quoi. Donc 3,25.
3,25. Je suis en train de regarder un peu les pronostics de nos auditeurs.
Ah putain, j'ai raté le. Tu te rends compte que je rate le perfect à cause de la DQ là.
Eh bah voilà.
J'avais le perfect. Franchement, ça c'est dégueulasse.
Ouais, bah t'es pas le seul à avoir fait des gros scores, hein, puisque je vois qu'à peu près tout le monde avait donné gagnant Bobby Lashley, Bianca Belair, quasiment par tout le monde. Je vois qu'Irem quand même avait parié sur Bayley. Sami Zayn n'était pas trop donné gagnant.
Hormis non, je l'étais content de la retrouver.
Karyas, Tolol quand même. Irem, il croyait aussi. Seth Rollins, ouais. Seth Rollins, bizarrement, était donné par quasiment tout le monde. Moi, j'ai complètement oublié de mettre mes pronos. J'ai eu des journées chargées.
Bah déjà, comptabiliser les pronos des autres, ça t'occupe des journées.
Voilà, c'est ça. Bah ça, ce sera pour la prochaine édition de notre pay-per-view. Je commencerai à vous donner le classement. Mais en tout cas, ouais, bon succès de tout le monde, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de pronostics qui sont corrects. Alors, beaucoup ont donné quand même Rhea Ripley gagnante. Ça va coûter le perfect à beaucoup de personnes. Hein. Malheureusement, puisqu'elle a gagné. Et oui.
Et puis je suis pas sûr que les rares qui aient mis Charlotte aient pensé aussi à Mets Zayn. C'est les deux matchs à mon avis qui vont faire du dégât.
Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que vous avez tous marqué beaucoup de points.
Rattrape le truc d'avant.
Voilà, au premier pay-per-view, je vous ferai au prochain pay-per-view pour le retour du public, je vous fais la totale et on commencera à donner les classements.
Ah, merci Ringside.
Hein, je suis grand prince, hein. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous pouvez le mettre dans les commentaires. sur YouTube. Bon, revenons au mot de la fin. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, moi? Mon flop, je vais le donner à l'enchaînement de finish mou du genou. Contre-climatique. Anticlimatique. Je vais donner mon top à Lashley et McIntyre qui ont fait vraiment du très bon boulot. J'étais vraiment très impressionné par ce match. J'aurais aimé le voir avec du public dans un contexte normal pour savoir si ces deux gars-là, ils auraient pu aller jusqu'au firmament et emporter la foule. Mais on ne le saura éventuellement que s'ils se réaffrontent un jour. Visiblement, n'est pas prévu. Mais c'est pas grave. Et je vais donner 2,5 moi au show. Hein. Je donne une note moyenne pour un show moyen. J'ai quand même forcé à me regarder pendant tout le long du truc. J'ai bien aimé l'opener. Après, j'ai trouvé que c'était vraiment un ventre mou tout le reste des matchs qui se sont enchaînés. Même s'il n'y avait rien d'honteux. Mais peut-être que je me serais plus amusé s'il y avait eu des gros botches et des trucs complètement loupés. Mais tout était dans la moyenne.
Ah, il te manquait Eva Marie et je vais dire voilà. Lana, mais elle pourrait plus là.
Ah, c'est ça, hein. Ramenez-nous des nuls là, qu'on puisse rigoler de temps en temps quand même.
Réembaucher Ruby Riot.
Voilà. Ça me manque, moi, ces multitags féminins où tout le monde passe à côté de tout le monde. Il y a eu quand même un coup de pied de Bayley dans les escaliers de fer où elle passe complètement à côté de la jambe de Bianca Belair. Et
Ça peut arriver.
Bianca Belair vend beaucoup beaucoup la jambe. Dommage, c'est surtout que ça a été mal cadré. Hein. C'est pas vraiment.
Ah, c'est la faute du cadreur, c'est pas la faute de Bailey. Dis pas de
voilà.
Bailey.
C'est ça. C'est plus un loupé, mais bon, c'est pas ça qui va me faire taper le cul par terre. Voilà, j'ai bien aimé le main event. Je me suis dit ils sont en train de tout sauver avec ce main event, mais finalement un finish de roll up. Donc ça me laisse sur ma faim, donc je peux que mettre 2,5. Et comme toi, j'attends avec impatience le retour du public pour mettre des grosses notes. Parce que si on est dans la même trajectoire que WrestleMania, je pense qu'on va quand même commencer à enchaîner des gros pay-per-view. On a des talents qui sont là. On a des histoires qui sont quand même pas trop mal torchées, en vérité. Hormis la division féminine de Monday Night Raw. Après, malheureusement, ils savent pas où comment traiter, tout simplement, Rhea Ripley, parce qu'on ne sait pas comment le public réagit à Rhea Ripley.
Est-ce qu'il n'y a pas Bikini qui va revenir d'ailleurs à ce niveau-là, hein,
ouais,
parler
voilà.
de la suite. Est-ce que c'est pas elle qui va justement rebalancer un gros coup de gros coup de pompe là dans cette division?
Ouais, bah ouais, bah oui, puisque il faut le retour de la babyface, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de babyface hormis comme tu le disais Nikki Cross, mais Nikki Cross elle est pas, elle peut pas assurer le spectacle autant que les autres, hein, donc.
Bah, surtout que vu comment qu'il la vend, il la vend comme chanceuse qui se fait la gueule tout le temps, donc
ouais.
Il n'a pas envie d'être derrière elle, malheureusement. Alors que moi, j'ai déjà vu faire des trucs pas si mal en plus, Nikki Cross.
Nikki Cross, c'est une, elle fait de la brawl. Il faut lui faire des matchs hardcore et des trucs comme ça.
Donc des matchs à stipulation, c'est parfait.
Voilà, exactement. Voilà. Voilà, on est optimiste pour la suite. Moi, je suis quand même resté sur ma faim sur ce pay-per-view largement, et j'attends des jours meilleurs. Voilà. Tout ça a été très bon, mais plutôt moyen. Alors, on va faire l'auto-promo, mon passage préféré.
Allons-y.
Alors, on est sur YouTube, on est sur Podcloud, toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc, des news, des conneries, tout ça, vous les retrouverez sur Twitter. On est sur Facebook, on est sur Instagram. On est là toutes les semaines pour vous résumer, vous analyser les émissions weekly de la WWE. Dieu sait que c'est du boulot. Donc soyez là, abonnez-vous et sonnez la petite cloche. Parce qu'on va se retrouver très rapidement pour Monday Night Raw, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Qu'il faut s'abonner, qu'il faut mettre des commentaires. On est sur
voilà.
Discord. L'invitation est dans la description. Si vous voulez venir discuter avec nous sur Discord.
Regardez tous nos vieux shows, là. Il y a des You Talk Too Much, des...
Ouais, il y a quand même encore pas mal de choses que vous voulez aller furter, qui ne sont pas périmées. Hein. L'émission des 5 ans, les interviews de Tristan Archer, de...
Le comptoir du catch.
Voilà, le comptoir du catch. On revient sur toute la carrière de Braun Strowman. Et on a aussi un qui revient sur toute la carrière de The Fiend. Donc ça, vous pouvez aller quitter tranquillement.
Rentre au catch-up, c'est quand on veut.
Rentre au catch-up, ça finira par sortir. Vous pouvez aussi aller les écouter. Ça n'a pas vieilli. C'est toujours... très pertinent.
Allez écouter les derniers parce qu'il y a bientôt. Il y aura un nouveau qui se prépare. Donc moi, j'écouterai déjà les derniers pour me mettre dans le bain.
C'est ça. Et je vous avoue que c'est ce qui nous éclate le plus à faire maintenant, ces émissions un peu talk, ces émissions rétro et les You Talk Too Much. On aime bien faire nos reviews de weekly, mais on aime bien aussi, et on sait que vous aimez bien, les émissions talk, donc n'hésitez pas à aller écouter ça, mettez des commentaires, qu'on soit un peu voyant sur le circuit. Voilà, abonnez-vous, mettez des likes. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Mais merci à toi pour ce dernier pay-per-view de l'histoire sans public, on croise les doigts, très fort.
Ça y est, on y est arrivé.
On arrive au bout.
On va claquer ce putain de Thunderdome de merde là, et
voilà.
La prochaine fois, public, haut ambiance, gros match, voilà, c'est ça qu'on vous prévoit pour Money in the Bank.
Dès le prochain pay-per-view, on pourra dire que le public, c'est un public de merde qui comprend rien au catch et qui va pas dans le bon sens et qui soutient pas les bons gars. Mais bon, c'est une autre histoire.
Le public était mort sur son téléphone portable.
Voilà,
ils ont liké le match,
de toute façon,
les connards.
Encore une fois.
Punaise, je ne supporte pas ce public de merde. Voilà. Non, allez, on croise les doigts. On veut de nouveau du catch avec une grosse ambiance. On a assez souffert pendant 2 ans. Voilà, les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on se dit à très bientôt sur les ondes de catch-up. C'était Ringside, c'était Papy. Ciao, bye bye, à vous les studios.
Salut Ringside et salut à tous! Thunderdome de merde.
De pute.